Alors, c'est encore à moi, mais avec son art global. Donc, est-ce que la solution viendra de son art global? C'est peut-être une des solutions. Alors, son art global, donc, vous avez compris ce que c'était, un réseau plus large. En gros, dans toutes les activités de Sonar, il y a des répertoires, des individus, vous êtes sans doute déjà inscrits, des réseaux, et dans le champ, il y a, dans toutes les actions, dans les work package, il y a un package formation. Donc les besoins qui ont été identifiés, c'est développer l'expertise opérationnelle et les capacités de recherche des chercheurs, pas seulement de la réponse à la gestion. Développer la sensibilité aux sciences sociales et des acteurs de prévention et gestion des menaces infectieuses. Et on a deux thèmes sur Sonar Global, ça c'est un peu un obligé de l'appel d'offres, qui sont la résistance aux antimicrobiens et les épidémies, qui se recoupent en grande partie. Alors le modèle choisi pour la partie formation, c'est de produire des supports de formation qui vont être en ligne. Pour nous, c'est un travail de faire les supports et c'est encore un autre travail que de donner des formations souvent confondues. Mais il vaut mieux que les formateurs soient nombreux, se réapproprient et qu'on soit plutôt dans la formation de formateurs, qu'on leur donne les outils pour qu'ils intègrent eux-mêmes, alors qu'ils l'adoptent, l'adaptent, l'interprètent et se l'approprient. Alors, on avait un peu comme format, a priori, de faire des curricula distincts par thème. Alors, par thème, un pour RAM et un pour épidémie. Et puis, un théorique et un opérationnel. Le théorique, un peu comme en France, on avait une époque, les masters recherche et les masters professionnels. Le théorique pour renforcer les chercheurs. Et le support, il est construit pour être utilisé, par exemple, dans une formation de 5 jours en présentiel. Donc, on développe des curricula. Alors, CRCF-IRD, on est chargé, avec Dakar à ma gauche, de développer des curricula spécialisés, donc pour chercheurs, sur les épidémies et opérationnels sur les épidémies. Sur le spécialisé sur l'AMR, c'est à Amsterdam qu'il le développe. Et l'opérationnel pour l'AMR, c'est un réseau de pharmaciens et sciences sociales à Maidol en Thaïlande. Alors, ça comprend des modules thématiques qui sont établis. Le module, c'est un support rédigé en vue d'un manuel avec des articles clés sélectionnés et des indications documentaires en complément. Ensuite, on a une liste de thèmes modules pour s'y reconnaître, un descriptif de chaque module pour les retrouver et une liste bibliographique avec des références clés. Bon, les modules, les voilà. Je vais même pas vous donner le temps de le lire. Vous verrez les diapos pour rester sous les ordres de notre président de session. Alors, on a un module en particulier vulnérabilité sociale qui est transversal. Et puis, on retrouve rumeurs, ça doit être dans perception, récit et communication de la maladie et de l'épidémie. Alors, le descriptif du module qui permettra de le retrouver sur la base, ça va être tout ça. Présentation, objectif, contenu, méthode pédagogique, documents complémentaires. Les questions stratégiques, quel niveau? Bon, on part sur l'idée que le prérequis, c'est avoir des notions de base en sciences sociales pour ceux qui ne sont pas de sciences sociales, et les autres, ça va être un niveau de cours qui peut être intégré dans des formations de Master 2. Ensuite, donc pour les uns, il faut des apports complémentaires de notions de base en épidémio et clinique et santé publique, et pour les autres en sciences sociales. L'enjeu stratégique dans la construction de ce genre de curriculum, c'est poser des limites. Alors, par rapport à la santé publique, on va préparer à des approches interdisciplinaires, mais on transforme pas les gens en acteurs de santé, chercheurs de santé publique qui mettent une dimension sociale. Par rapport aux autres sciences sociales, on aurait besoin de ces autres sciences sociales, mais elles vont être forcément en complément parce qu'il faut faire des choix. Et puis, on va jouer sur ces choix d'éléments complémentaires disponibles en ligne. Ensuite, comment pouvoir adapter? Les formateurs pourront choisir dans les modules disponibles en ligne pour construire des sessions plus ou moins longues, plus ou moins focalisés sur les thèmes qu'ils souhaitent. Alors, la difficulté, c'est qu'on a une approche collaborative, informée par le repérage de cours déjà en ligne. c'est pas facile. On sait aussi, on a constitué un petit comité scientifique pour nous aider, surtout à voir si on n'oubliait rien, pour être critique par rapport à ce qu'on avait fait. On travaille en anglais et en français. Alors là aussi, en gros, en général, c'est les Français qui ont la charge de la traduction. Hein. Les dominants, c'est l'anglophone. Ensuite, on doit faire une phase de test. Donc, on a prévu de faire un atelier qu'on organise avec des acteurs du réseau Anthropologie des épidémies émergentes pour, pendant une semaine, tester ce curriculum. Et la mise en ligne est prévue pour mi-2020. Le suivi, on n'a pas encore les moyens pour le faire. Il faudra l'articuler avec... En gros, c'est un peu tôt, mais je vous encourage à partir de mi-2020 à récupérer ces modules pour les faire évoluer et pour renvoyer. On devrait avoir une évaluation de tous les utilisateurs pour améliorer le dispositif. Bon, bilan et conclusion. On est dans une démarche expérimentale. Franchement, on passe beaucoup de temps en téléphone, en conférence, parce que c'est difficile hein, quand même le collaboratif. Choix stratégique difficile. Alors, il est clair que faire un manuel, ça permet d'avoir une vision collective, matérielle, ça facilite les choses. Ensuite, le fait d'avoir des compléments possibles en ligne, ça nous aide à ces choix qui sont moins dramatiques que s'il fallait ne pas inclure certains documents. Les aspects complexes, c'est quand on a tous des approches théoriques variées, donc tous les mettre, comment, c'est pas évident. Permettre l'adaptabilité, c'est pas facile non plus. Et puis, ce que j'ai déjà dit, la langue et le collectif. Mais on y croit, donc dès que vous pourrez participer à ce processus, ça sera avec plaisir qu'on échangera à ce sujet. Et donc, si vous avez des modules ou des expériences de formation qui sont passées entre les... qui ont échappé à la vigilance de ce mapping préalable, merci de nous les signaler. Je vous remercie.
Oui, question, tout de suite.
Je ne devrais pas parler parce que je connais bien. Je vous remercie parce que je sais que l'équipe de WorkPacket 5 vous travaillez beaucoup. Mais je voulais juste ajouter qu'il y a beaucoup d'intérêt ailleurs pour cette formation et surtout des épidémies. On a eu des demandes de la part des anthropologues au Madagascar, de la part de chercheurs en sciences sociales en RDC. Et donc, on est toujours en train de voir comment on va faire une sorte de scale-up. Si je peux rajouter, au niveau de l'Institut Pasteur et ailleurs, je pense qu'il y a, beaucoup d'intérêt en cette formation, ou ces formations. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter.
Merci beaucoup.
Merci, c'est super intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter après. J'avais une question un peu transversale. Je ne sais pas si c'est le moment. C'est qu'en vous écoutant tous, à chaque fois, je me pose la question finalement du public cible quoi, de ces formations-là. Parce que dans le cas de Riposte, il semble que c'est plutôt des personnes, enfin je veux dire, c'est pas des SHS à la base qui sont forcément ciblées. Dans la question que vous avez soulevée, vous, c'est vraiment pour des personnes qui sont formées en sciences sociales, qui travaillent comme consultants et qui rembrayent avec la recherche finalement. Et ouais, c'est une question que je me pose beaucoup dans les modules qu'on fait. L'idée, c'est pas de faire des parfaits petits anthropologues en 2 semaines ou en 4 jours. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème ? Enfin, je veux dire, est-ce que quand on a ce type de démarche de formation, est-ce qu'il faut vraiment se poser la question du public cible ou pas ? Ou finalement, est-ce que c'est un faux problème et que ce qui compte, c'est qu'on brasse d'une manière interdisciplinaire ces questions-là ?
Merci beaucoup de poser cette question parce que dans le premier, dans le MIA, on a eu des personnes ensemble qui ont orienté vers l'opérationnel, la gestion des épidémies, qui ont construit une sorte de communauté avec des notions de base pour pouvoir parler. Et là, on a choisi une approche très différente en disant qu'il y a des inégalités nord-sud, il faut que le sud acquiert des compétences. Mais en fait, c'est même pas ça. On a aussi des niveaux de spécialisation les chercheurs en sciences sociales du Nord aussi doivent apprendre. L'anthropologie médicale, elle n'est pas enseignée partout. En France, il y a de moins en moins d'enseignements. Donc, on a besoin de chercheurs qui soient spécialisés en tant que chercheurs. Et par ailleurs, on a besoin de travailler sur les aspects opérationnels. Et là, on aura on pourrait presque dire des collaborateurs, mais aussi des anthropologues qui veulent faire de l'appliquer, qui sont dans cette démarche-là. Alors après, on peut imaginer qu'il y ait cross-mutualisations, il y aura au moins une intervention sur l'application dans le module spécialisé, et puis on va imaginer des passerelles pour ceux qui seraient dans l'opérationnel et découvriraient tout l'intérêt de cette discipline qu'est l'anthropologie. Le parti pris de séparer, je pense que c'est important parce qu'on est aussi dans des documents utilisables dans les universités d'un côté, le monde académique, et tout le reste, c'est presque un autre monde et il nous faut les deux.
Si je peux me permettre de participer à la réponse. Il y a une expérience dont on ne parle pas parce que Alice l'a dit en introduction. On a un membre du réseau actif qui n'est pas là, qui est le professeur Akindes à la chaire UNESCO de bioéthique de Boaké, qui est en train de réfléchir aussi. La question des publics cibles, elle est, je pense, importante. Et je pense qu'on est tenu d'être un peu sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi former des anthropologues qui soient capables de faire de l'anthropologie des épidémies et que ça ne s'improvise pas. C'est pas, on l'a vu, l'expérience de Guinée nous a montré, on ne peut pas improviser de faire de l'anthropologie des épidémies, surtout dans des contextes d'urgence. Et donc, il y a là aussi toute une préparation à faire. Voilà. Et donc, il y a une expérience qui est en cours, alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, le professeur Akindes n'est pas là, mais je pense qu'il en aurait parlé volontiers, c'est qu'il est en train de refaire tout le master d'anthropologie et de sociologie de l'université Alassane Ouattara à Boaké, et qu'il veut que ça soit dans tous les domaines, que ça soit les questions foncières, les questions des épidémies, les questions des tas de questions sur la violence. Il veut que ça soit un master qui soit intégré dans articulé avec des opérateurs de terrain. Et donc il est en train, là ça fait 3 mois qu'il est dans un processus de consultation à la fois d'agences nationales, internationales, d'ONG, de membres du secteur privé, par exemple les entreprises d'orpaillage de Côte d'Ivoire, qui expriment leurs besoins, ils ont besoin de quoi en sciences sociales, et il va monter son master pour essayer de répondre à ça. Et dans ce master, il a prévu de faire un module en anthropologie des épidémies, suite à l'expérience acquise au cours du programme PASS et du programme dont Firmin nous a parlé ce matin sur les rituels funéraires. Donc je pense qu'il y a des choses complémentaires qui peuvent se faire. Mais c'est vrai que la question du public cible, là il faut... Il y a aussi la question de la formation d'anthropologues qui puissent travailler sur ces questions-là, notamment au Sud.